es-tu, Seigneur Jésus? Alléluia. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur veut certainement se glorifier au milieu de nous pendant ce week-end de Pentecôte. Le croyez-vous? Qui est-ce qui le croit? Levez la main. Alléluia. Et il fera même au-delà de ce que nous pensons et demandons. Ne limitons pas Dieu à notre petite foi. Ce n'est pas ta petite foi qui est importante. L'important est que ta petite foi soit orientée vers un grand Sauveur et un grand Dieu. Alléluia! C'est cela le plus important. Combien de personnes disent « Mais ma foi est petite ». Si tu as la foi comme un grain de sénévé, nous dit le Seigneur, tu peux transporter des montagnes. Ce n'est pas tellement la quantité de foi qui est importante, mais la qualité de la foi. Et la qualité de la foi, c'est celle qui regarde à Jésus. Amen. Donc ne regarde pas ta petite foi, mais regarde à ce grand Sauveur qui est là. Détourne les regards de toi-même. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Plus nous écoutons avec attention la parole du Seigneur, plus cette foi va grandir. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais ce qu'on entend doit être écouté de telle manière que nous mettons en pratique ce que nous entendons. Quand il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, cela ne veut pas dire que seulement entendre pour entendre, être un auditeur oublieux. Malheureusement, beaucoup de gens entendent et oublient. Mais le verbe entendre ici veut dire entendre de telle manière que l'on met en pratique ce que l'on a entendu. Amen. C'est tout simple. C'est pas seulement écouter pour écouter, mais c'est écouter en vue de mettre en pratique. Et c'est seulement ce que tu décides de mettre en pratique que Dieu confirmera. Et Dieu viendra t'aider à ce moment-là. Alléluia. Mais ne sois pas passif. Et une foi active. Alléluia. Dieu est le Dieu de l'impossible, mes amis. Attendons-nous à l'impossible. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je sais qu'il va faire de bonnes choses. Amen. Il va sauver, il va guérir, il va baptiser dans le Saint-Esprit, il va délivrer, il va bénir des couples, il va réconcilier certaines personnes, il va faire de grandes choses, parce que notre Dieu est un grand Dieu. Alléluia! À cela, lui, soit toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Mon premier message aura pour titre « Comment expérimenter la présence de Dieu ?» C'est une pensée extrêmement importante. Comment expérimenter la présence de Dieu ? Qui ne désire pas expérimenter la présence de Dieu ? Qui désire expérimenter la présence de Dieu ? Levez la main. C'est la chose la plus capitale. Vous êtes venu ici, pourquoi ? Pour expérimenter la présence de Dieu, n'est-ce pas ? Si Dieu n'est pas là, le meilleur des discours, la plus belle des prédications ne pourra rien faire pour vous. C'est la présence de Dieu qui change tout. C'est la présence de Dieu qui change tout. La plus faible prédication, sous l'onction de l'Esprit, et dans la présence de Dieu, peut faire des miracles extraordinaires. Alléluia! La présence de Dieu. Et nous, les chrétiens aussi, nous avons besoin de grandir dans cette expérience de la présence de Dieu. Combien de chrétiens aussi n'expérimentent pas régulièrement la présence de Dieu? Ils l'expérimentent pendant une convention. Mais ils rentrent à la maison et ils ont perdu le sens de la présence de Dieu. Et il n'y a rien de plus malheureux, de plus triste que de voir un chrétien qui ne sait pas comment expérimenter la présence de Dieu à la maison, au travail. Expérimenter la présence de Dieu dans une convention, c'est bien, mais Dieu veut que vous soyez porteurs de cette présence partout où vous êtes et partout où vous allez. Alléluia! Car si nous sommes porteurs de cette présence, mes amis, alors nous serons des hommes et des femmes pleins de courage. Rien ne nous arrêtera. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de combat, mais rien ne nous arrêtera. La présence de Dieu nous soutiendra, nous tiendra et nous conduira de victoire en victoire. Le plus grand besoin que tu aies maintenant, c'est d'expérimenter la présence de Dieu. L'homme, la femme a été créé pour vivre en communion avec Dieu, n'est-ce pas vrai? L'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu. Et l'homme n'est heureux mais lorsqu'il n'y a pas cette présence de Dieu, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous avons été créés, tu as été créé pour vivre dans cette présence. Mais pour que la présence de Dieu se manifeste, pour que tu puisses goûter toujours plus cette présence, pour que cette présence augmente toujours plus, car c'est la volonté de Dieu, que la présence de Dieu, son onction, augmente au fil des années. Amen. Non pas monter, descendre continuellement, mais monter progressivement. Connaître toujours plus une onction plus grande avec lui. C'est ce message que je voudrais vous apporter maintenant. Comment expérimenter cette présence de Dieu? Et nous allons prendre comme exemple le tabernacle dans l'Ancien Testament. Le tabernacle dans l'Ancien Testament, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, mais nous allons voir que le sacrificateur, pour aller dans le lieu très saint, devait passer par quatre étapes importantes. Quatre étapes importantes qui lui permettent d'arriver dans le lieu très saint, là où la gloire et la présence de Dieu se trouvent. Mais il ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu comme cela. Il y a toujours une préparation. Amen. Il y a toujours une préparation. Tu dois toujours préparer ton cœur à aller à la rencontre de Dieu. Dans les Écritures, lorsque Dieu a conduit Moïse sur la montagne, il a dû attendre plusieurs jours avant que Dieu vienne se révéler à lui. Et chaque fois, il en est ainsi. Avant que la présence de Dieu vienne, l'homme doit se préparer. Et nous allons voir là que le sacrificateur devait franchir quatre étapes qui sont indispensables pour chacun d'entre nous aujourd'hui. À la lumière du sacrifice de Jésus-Christ, nous allons comprendre ce que sont ces quatre étapes. Voyons un texte de base. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19. Frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi et dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà, nous allons nous arrêter là et nous allons tout de suite voir maintenant quelle est cette première étape? Quelle est cette première étape pour vous, pour la plupart d'entre nous qui connaissons un peu ce qu'il y avait dans le tabernacle? La première étape, le premier objet que le sacrificateur, vous savez que le tabernacle se divisait en trois parties, n'est-ce pas? Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Voilà. Mais avant d'aller dans le lieu saint ou dans le lieu très saint, le sacrificateur devait passer par le parvis. Et quand il entrait dans le tabernacle, en entrant dans le parvis, la première chose qu'il rencontrait devant lui, la première chose, avant d'aller plus loin, parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin sans passer par là, la première chose qu'il rencontrait devant lui, c'était l'autel d'airain. Il rencontrait un autel d'airain. Et là, il devait offrir en sacrifice des animaux. Le sang devait être versé, et c'est avec ce sang qu'il pouvait entrer dans le lieu saint, et une fois par an, dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, il y entrait une fois par jour. Mais dans le lieu très saint, une fois par an. Mais jamais sans le sang. Si le sacrificateur essayait d'entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint sans le sang, il était foudroyé automatiquement. Il ne pouvait pas se présenter devant Dieu, il ne pouvait pas jouir de la présence de Dieu s'il n'a pas offert en sacrifice des animaux, si le sang n'a pas coulé pour l'expiation de ses propres péchés et l'expiation des péchés du peuple. Donc voyez-vous, la première des choses qu'il rencontre, c'est cet autel d'airain. Il fallait que là, les animaux soient sacrifiés, que le sang coule, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et comme nous l'avons lu, ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Pourquoi est-ce qu'il a fallu abandonner cette ancienne alliance? Parce que le sang des taureaux et des boucs, nous dit la parole de Dieu, ne pouvait pas ôter les péchés. Ces choses étaient une image de ce que un jour, l'agneau sans défaut et sans tâche allait venir. Et cet agneau sans défaut et sans tâche, qui est Jésus, devait livrer sa vie en sacrifice pour le péché des hommes. Et ce sang-là, alors, pouvait purifier le péché de tous les hommes. Alléluia! C'est ce que Jean-Baptiste disait en regardant Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Alors, regardez-moi bien, mes amis. Vous-même, moi-même, lorsque je veux entrer dans la présence de Dieu, la première des choses que nous devons faire, c'est de réaliser la puissance et la valeur du sang de Jésus. Amen. Dans votre culte personnel, là où vous êtes, personnellement, chaque fois que je me présente devant Dieu, la première des choses que je fais, c'est d'invoquer le sang de Jésus, le sang purificateur, la valeur du sang de Jésus. Car ce sang a une valeur extraordinaire et nous ne pouvons aller plus loin sans passer par la purification qui nous vient par le sang de Jésus. Vous ne pourrez pas aller plus loin. Vous n'expérimenterez pas la présence de Dieu si vous ne réalisez pas la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Amen. D'où l'importance, quand vous vous présentez devant Dieu, de dire, Seigneur, devant toi et devant le diable qui m'écoute, et pour moi-même, je veux attester et confesser la puissance et la valeur de ton sang. Amen. Alléluia. Et c'est ainsi, avant de faire quoi que ce soit, avant d'aller plus loin, vous devez passer par un bain purificateur et devez dire à Dieu, au diable et à vous-même, Le sang de Jésus me purifie de tout péché. 1 Jean 1,7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia! Ça, c'est un verset où pratiquement, presque tous les jours, je l'invoque sur moi-même lorsque je prie. Seigneur, je viens à ta lumière. Voyez-vous que je suis comme le sacrificateur devant l'autel des reins. Il me faut le sang. Sans le sang, je ne peux pas me présenter. Je ne peux pas aller dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas aller dans la présence de Dieu sans le sang de l'agneau. Amen. Vous ne pouvez pas aller, mais avec ce sang, vous pouvez aller jusque dans le sanctuaire même. Alléluia. Jusque dans la présence même de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Sans le sang, vous ne pouvez rien faire. Mais avec le sang de Jésus, vous pouvez aller jusque sur le trône même de Dieu. Amen. Le sang de Jésus. Mes amis, nous devons réaliser la puissance, la valeur, l'autorité du sang de Jésus qui purifie. Voilà pourquoi certains n'expérimentent pas la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas au sang de Jésus. Combien de personnes disent, oh, comment le sang de Jésus? Est-ce qu'il faut vraiment le sacrifice sanglant de Jésus pour être pardonné? Il y en a combien qui disent, mais ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est une drôle de théologie un peu. Cette théologie qui dit qu'il faut que le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus soit sanglant pour nous sauver. Certains disent, je ne crois pas cela. Mais mes amis, si nous ne croyons pas cela, jamais nous n'expérimenterons la présence de Dieu. Amen. Un jour, il y avait une dame qui a écouté un message du prédicateur qui prêchait sur le sang de Jésus, sur la nécessité du sacrifice sanglant de Jésus pour être purifié. Elle s'approche du prédicateur en disant, « Oh là là, votre message zéro. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas d'accord avec votre message. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord ?» Alors elle s'est mise à dire, « Mais moi je crois que Jésus, on doit seulement le suivre. Jésus n'est pas un sauveur. On doit le suivre comme un exemple seulement. » Jésus est seulement notre exemple. Et sa mort sur la croix, son sacrifice, tout ça n'a pas de sens. Pourquoi est-il venu? Il est venu pour nous donner un exemple. Ah bon? Alors le pasteur lui a dit ça. Ah bon, il est venu pour te donner un exemple. Alors d'accord. Alors prenons Jésus. Alors Jésus est votre exemple donc. Bon, alors oui, elle a dit, oui, Jésus est mon exemple. D'accord, alors on va commencer par là. Alors il est dit de Jésus, dans l'épître de Pierre, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Voyez-vous, Jésus n'avait pas de péché. Et vous, avez-vous des péchés? Ah oui, mais moi je pêche tous les jours. Alors comment pouvez-vous suivre Jésus qui n'a pas de péché, et vous qui avez des péchés, qui en commettez tous les jours? Vous voyez bien qu'on n'avait pas besoin de l'exemple de Jésus. Vous avez donc plutôt besoin d'un sauveur, non pas d'un exemple. C'est d'un sauveur, puisque vous péchez tous les jours. Et la bonne dame s'est tue, et elle est rentrée à la maison en baissant la tête. C'est d'un sauveur dont tu as besoin, et non pas d'un exemple. Amen. Et le sang de Jésus nous rappelle cela. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus est indispensable pour notre salut. Je lisais aussi l'histoire d'un prédicateur qui se trouvait dans la maison d'un paysan qui n'était pas chrétien. Son épouse était chrétien, mais lui, il n'acceptait pas le Seigneur Jésus. Et alors, pendant que ce prédicateur était dans cette maison, il avait prié, « Seigneur, aide-moi à trouver une illustration qui va aider cet homme à réaliser qu'il a besoin de croire en ton sacrifice pour être sauvé. » Aide-moi, Seigneur. Il faut que je lui fasse comprendre cela. Les journées passaient. Et un jour, le paysan arrive vers le prédicateur à la maison et lui dit, « Ah, vous savez ce qui est arrivé? Venez, suivez-moi. Nous allons aller au poulailler là-bas derrière. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors, ils sont allés voir. Et vous savez ce qu'il y avait? Il y avait une poule avec des poussins sous ses ailes. Et le paysan a dit au prédicateur, « Regarde la poule, touche-la. » Apparemment, elle était là, elle est comme ça. « Touche-la, tu verras qu'elle est morte. » « Ah bon ? Mais pourtant, on n'avait pas du tout l'impression qu'elle était morte. Elle était là sur ses poussins. Elle est morte. » Et approche-toi un petit peu maintenant. Et regarde sur sa tête. Il y a une blessure. Une bolette est venue. Cette bête a attaqué cette poule et a sucé tout son sang. Et la poule est morte, bien sûr, sur le coup. Mais la poule est restée. Elle n'a pas fui parce qu'elle avait des poussins sous ses ailes. Elle aurait pu s'en aller, mais elle est restée. Elle a donné sa vie pour sauver ses poussins. Alors le prédicateur a dit, voilà mon illustration. Fifi a donné son sang. Il lui-même l'a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Et lorsqu'il était sur la croix, la foule criait, si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix et nous croirons en toi. Descends. Est-ce que Jésus aurait pu descendre? Mais bien sûr que oui, il aurait pu descendre. Mais s'il descendait, il aurait sauvé sa vie. Mais nous serions perdus pour l'éternité, n'est-ce pas vrai? Descends de la croix et nous croirons en toi. Mais Jésus n'est pas descendu. Et là, sur cette croix, il a donné sa vie, il a donné son sang, afin que par sa vie, nous ayons le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Amen. Et quand il a expliqué cela aux paysans, il a commencé à comprendre pourquoi Jésus devait être sacrifié. Car sans son sacrifice et son sang versé, il n'y a pas de pardon des péchés et il n'y a pas de vie éternelle. Nous sommes perdus. Par sa vie, nous avons la vie. Amen. Par sa mort, nous avons la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi le sang de Jésus a une valeur inestimable aux yeux de Dieu le Père et doit avoir aussi une valeur inestimable à tes yeux. Car ce n'est que le sang de Jésus qui purifie ton péché. Amen. Si tu veux expérimenter la présence de Dieu pendant ce week-end, tu dois venir au pied de la croix. Tu dois abandonner à ses pieds ton péché, ta rébellion, tes souillures. Mais comment être purifié? Comment être lavé? Il n'y a qu'un moyen, mes amis. Ce ne sont ni tes larmes, ni tes prières, ni tes bonnes œuvres, ni ta religion, ni tes souffrances, ni ton argent, ni ta moralité. Rien de tout cela ne peut purifier ton péché. Il n'y a que le sang de Jésus, nous dit la Bible, qui purifie de tout péché. Alléluia! Blanc, plus blanc que neige. Mon cœur est lavé et je suis plus blanc que la neige. Alléluia! Lorsque le sang de Jésus lave un cœur, il est plus blanc que la neige. Amen. Mon ami, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois passer par le bain purificateur du sang de Jésus. Et le sang, qu'est-ce qu'il fait encore? La Bible nous dit que par le sang de Jésus, Dieu a fait la paix par le sang de la croix. Il a fait la paix. Autrement dit, si tu veux avoir la paix de Dieu en toi, tu dois accepter le sang de Jésus, qui seul a été accepté par Dieu le Père pour le pardon de nos péchés. Dieu est en paix avec nous à cause du sang de Jésus. Il n'y a rien d'autre qui apaise Dieu que le sang de Jésus. C'est pourquoi tu seras continuellement en guerre avec Dieu si tu n'acceptes pas le sang de Jésus. Mais si tu l'acceptes, Dieu dit qu'il a fait la paix avec toi à cause du sacrifice de Jésus. Amen. Oh, quelle paix! Quelle paix infinie nous avons lorsque nous mettons notre confiance dans le sang de Jésus. Lorsque nous disons, oh Jésus, que ton sang me purifie. J'abandonne mon péché. J'abandonne ma rébellion. J'ai honte de moi-même, mais je veux changer de vie. Mais Seigneur, je vois ce que tu as fait à la croix, c'est moi qui aurais dû mourir, mais tu es mort à ma place. Tu aurais pu sauver ta vie, mais tu es mort à ma place. Christ a souffert une fois pour nos péchés, lui le juste, pour nous injustes, afin de nous amener à Dieu. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le sang de Jésus me donne la paix Amen. As-tu besoin de paix? Alors réalise que le sang de Jésus te donne la paix. Le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il fait encore? La Bible dit, dans Romains 5, verset 9, « Le sang de Jésus nous justifie. Nous sommes justifiés par son sang. » C'est-à-dire que Dieu nous considère comme si nous n'avions jamais péché. Alléluia. Je vous assure, cette parole continuellement, lorsque je me présente devant Dieu, je la confesse. « Seigneur, je t'ai confessé mon péché. Je hais mon péché. Je marche dans la lumière maintenant. » Et ton sang m'a justifié. C'est-à-dire que tu me considères désormais comme si je n'avais jamais péché. Alléluia! C'est une véritable libération. C'est une véritable libération. Il a tout payé. Tu peux maintenant t'approcher de Dieu à cause du sang de Jésus comme si tu n'avais jamais péché. Amen! Alléluia! Voilà quelque chose d'extraordinaire. Et le sang, qu'est-ce qu'il fait encore? Il y a plusieurs choses. Le sang de Jésus nous donne aussi la liberté de nous approcher de Dieu. Hébreux 10, 19. Par le moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Écoutez-moi bien, mes amis. Personne ici ne peut entrer dans la présence de Dieu sans invoquer le sang de Jésus, sans croire en la puissance du sang de Jésus, qui seul peut nous introduire jusque dans la présence même de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu peut avoir communion avec toi maintenant à cause du sang de Jésus. Gloire au Seigneur. Oh, combien il est bon de le dire et de le redire, Seigneur. Maintenant, j'ai communion avec toi à cause du sang de Jésus. Amen. Il n'y a plus rien qui me sépare de toi à cause du sang de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Vous devez le dire, le confesser. Il y a autre chose encore que le sang fait. Le sang nous libère du pouvoir de Satan. Amen. Éphésiens 7, la Bible dit que nous avons la rédemption par le sang de Jésus. Et le mot rédemption veut dire être délivré de la main du diable. Amen. Autrement dit, par le sang de Jésus, nous sommes délivrés du pouvoir. N'est-ce pas extraordinaire? Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire. Si nous comprenons cela, Seigneur, ton sang non seulement me permet d'être purifié, d'être justifié, d'avoir communion avec toi, mais ce sang me libère du pouvoir de Satan. Et vous pouvez désormais dire à Satan, « Satan, tu n'as plus de pouvoir sur moi. » À cause du sang de Jésus. Amen. Et je le dis constamment. Satan, tu ne peux me toucher. Tu peux me toucher. Tu ne peux me toucher. Tu ne peux toucher ma femme. Tu ne peux toucher mes enfants. Tu ne peux me toucher. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nous sommes délivrés du pouvoir de Satan. Ôte ta main de nous, Satan. Et il doit obéir. Il doit obéir. Amen. Alléluia. Oh, le sang, oh, la puissance du sang de Jésus. La puissance, le sang de Jésus nous donne autorité sur le diable aussi. Non seulement il n'a plus de pouvoir sur nous, mais c'est nous maintenant qui avons tout pouvoir sur lui. Apocalypse 12, 11, il est dit, ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Voilà ce que vous devez dire. Seigneur, ton sang non seulement m'a libéré de l'esclavage de Satan, mais ton sang me donne autorité sur le diable. Amen. Tu es vaincu par le sang de l'agneau. Oh, le diable n'aime pas cela. Le diable n'aime pas cela, mes amis. Si tu veux expérimenter la présence de Dieu, voilà ce que tu dois confesser. Voilà ce que tu dois dire. Voilà ce que tu dois croire. Voilà ce que tu dois garder dans ton cœur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia! Mon ami, toi qui es tourmenté, toi qui es dans la crainte, si tu crois en la puissance de Jésus, lève-toi et dis à Satan, à cause du sang de Jésus, maintenant tu n'as plus de pouvoir sur moi. C'est moi qui ai autorité sur toi. Ton pouvoir a été ôté. Va-t'en de moi! Au nom de Jésus, je t'ordonne, va-t'en maintenant. Regarde-moi, Satan. Vous auriez pu dire Alléluia. Amen. Alléluia.
1 Pierre 1,19, le sang de Jésus fait encore autre chose. La Bible dit que nous sommes 1 Pierre 1,19, que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Cela veut dire que nous ne nous appartenons plus, nous appartenons au Seigneur. Nous sommes la propriété de Dieu. Amen. Voilà une autre parole extraordinaire que nous devons confesser lorsque nous venons. Combien d'entre nous, nous sommes chrétiens, nous avons été rachetés par le sang de Jésus, nous allons, oh Seigneur, je suis encore esclave, je suis encore ceci. On confesse notre esclavage. Oh Seigneur, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui va. Mais en confessant cela, mais c'est comme si nous méprisions le sang de Jésus. Dieu voudrait vous dire ce matin, mais mon sang, cet après-midi, mais mon sang a fait quelque chose pour toi. Je suis la propriété de Dieu. Par le sang de Jésus. Arrière de moi, Satan. Le sang de Jésus m'a purifié. Le sang de Jésus m'a justifié. Le sang de Jésus m'a libéré du pouvoir de Satan. Le sang de Jésus me rend vainqueur. Alléluia. Le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Ne l'oubliez pas, c'est à cause du sang qu'il avait sur lui que le sacrificateur pouvait se présenter devant Dieu. N'est-ce pas vrai? Et ce n'est qu'en invoquant le sang de Jésus que nous pouvons nous présenter devant Dieu. Amen. Le sang. Il devait passer encore, maintenant que vous avez bien confessé la puissance et l'autorité du sang de Jésus, vous devez aller un peu plus loin. Après l'autel des reins, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la cuve des reins. Et là, le sacrificateur devait laver certains membres et ensuite il entrait dans le lieu très saint, dans le lieu saint. Donc il y a la cuve, des reins. Là, il devait se laver. Et la parole de Dieu nous dit dans l'épître aux Éphésiens que nous sommes lavés par le baptême de la parole. La parole est comme ce moyen que Dieu utilise pour nous purifier. Éphésiens chapitre 5 nous dit d'être purifiés par le baptême d'eau de la parole. Le baptême d'eau de la parole. Alors voyez-vous, une fois que nous avons invoqué le sang de Jésus avec toute l'efficacité, toute la puissance, maintenant nous devons réaliser la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Nous devons nous laver par le moyen de la parole. Et il y a un beau verset pour cela. Romains 12, 1. Je vous exhorte, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Amen. La parole de Dieu ne doit pas seulement être une lettre morte, mais une parole vivante. Amen. Et vous venez devant Dieu, Seigneur, maintenant j'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Amen. Je te donne ma vie, je veux être transformé par le renouvellement de mon intelligence. Je me donne à toi. Gloire au Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 5, 17, une autre parole extraordinaire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ces paroles, vous devez les garder en vous. Vous devez les confesser. Vous devez les mémoriser. Ces paroles doivent faire partie intégrante de vous-même. Amen. C'est votre lavage, c'est votre purification. Vous passez à la cuve des reins pour être lavé par le baptême d'eau de la parole. Amen. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Voilà des paroles que vous devez confesser. Voilà des paroles que vous devez garder en vous. Et je vous assure, lorsque vous vous attardez sur ces passages, sur ces promesses bibliques, il y a comme une purification en vous, n'est-ce pas vrai? Une purification. Mais mes amis, combien d'entre nous négligeons la parole de Dieu? Combien ne lisent même pas la parole de Dieu? Dieu ne promet jamais sa présence à quelqu'un qui n'honore pas la parole de Dieu. Mes amis, nous devons honorer la parole de Dieu. Nous devons l'honorer comme nous honorons le sang de Jésus. Car sans le sang de Jésus, il n'y a pas de présence de Dieu. Mais si nous n'honorons pas la parole de Dieu, il n'y a pas de présence de Dieu, mes amis. Car Dieu n'a promis de confirmer qu'une chose, c'est sa parole. Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Mes amis, vous avez besoin de méditer cette parole. Cette parole, ce n'est pas seulement la parole de la prédication, mais vous devez la méditer. Et dans votre culte personnel, vous devez prendre des promesses et les prendre au mot et dire, Seigneur, c'est ta parole. C'est ta parole, je la confesse, je la garde dans mon cœur. Et vous verrez que c'est comme un bain purificateur. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quelle parole extraordinaire! Rien qu'une telle parole vous libère. Ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Nous avons besoin, tu as besoin de la parole. Est-ce que tu utilises cette parole? Est-ce que cette parole est pour toi un moyen de purification? Lis-la souvent. Et dans ton culte personnel, donne à Dieu des promesses. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Au lieu de pleurnicher devant Dieu, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Oh Seigneur, je ne sais plus ce qu'il va faire. Alors que la parole de Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Au lieu de dire, Seigneur, tu m'as abandonné, voilà ce que tu dois dire. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voilà la parole que tu dois confesser. Au lieu de dire, Seigneur, on m'a abandonné. La parole de Dieu dit autre chose. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, je manque de tout. Je manque de tout, Seigneur. Et la parole de Dieu dit que tu ne manqueras de rien. Alors, il faudrait peut-être savoir ce qu'il faut faire. Ce que tu confesses, loin de te purifier, te souille quand c'est tes paroles et tes pensées humaines. Il n'y a que la parole de Dieu qui purifie. Amen. Mais nos sentiments, nos pensées humaines nous souillent. Veille à ce que tu dis dans la présence de Dieu. Ce que tu dis doit être en conformité avec la parole de Dieu. Bien souvent, nous essayons de manipuler le Seigneur, même par nos larmes. Oh Seigneur, on joue au sentiment avec le Seigneur. Et on est étonné de ce que Dieu n'agisse pas. Mes amis, Dieu est lié avec sa parole. Viens avec les promesses de Dieu. Viens avec la parole de Dieu devant lui. Cette parole te purifiera. Cette parole te guérira. Cette parole te consolera. Cette parole te renouvellera. Cette parole te fortifiera. Alléluia! La parole, c'est un bain purificateur. Ne l'oublie pas dans ton culte personnel. Ne l'oublie pas. Cesse de pleurnicher. Cesse de te lamenter. Lis la parole de Dieu. Prends des promesses qui sont pour toi. Et viens devant Dieu en disant, ta parole me dit ceci, je le crois. Je le crois de tout mon cœur. Si tu le crois, cette parole te purifiera et fera des merveilles dans ta vie. Amen. La deuxième étape, c'est donc la cuve des reins. Troisième étape, nous entrons maintenant dans le lieu saint. Et la première des choses que le sacrificateur rencontre dans le lieu saint, c'est quoi? C'est la table des pains de proposition. C'était une table où il y avait 6 pains plus 6 pains, 12 pains. Et là, le sacrificateur devait s'arrêter. Bien sûr, ces pains sont l'image de Jésus qui est le pain de vie. Mais là, il y a un message pour nous. Ce pain, comment est-il fait? Pour faire du pain, il y a en tout cas deux choses importantes à faire, sinon vous ne pourrez jamais faire du pain. Premièrement, il faut moudre le grain de blé, n'est-ce pas vrai? Et deuxièmement, une fois que tout est bien moulu, on a bien fait la pâte, où est-ce qu'on doit mettre cette pâte? Au four. La pâte doit passer au feu. Alors là, le message pour vous et pour moi est celui-ci. Seigneur, lorsque je me présente devant ce pain, qui est le pain de vie, Jésus a dit, non ma volonté à son Père, mais ta volonté. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et Dieu doit broyer, briser notre volonté propre. Et tant que notre volonté propre n'est pas brisée, mes amis, nous n'expérimenterons pas la présence de Dieu. Voilà pourquoi certains n'expérimentent plus la présence de Dieu, ou pas, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Leur volonté propre n'a pas été brisée. Ils n'ont pas dit, Seigneur, non plus ma volonté, mais ta volonté. Amen. Et cela, mes amis, c'est une prière qui vous coûte cher, mais c'est la prière qui vous attire la présence de Dieu. Amen. Là, vous êtes faible. Là, vous n'êtes plus rien du tout. Seigneur, je te donne ma vie. Combien de fois je dois le dire lorsque je me présente aussi devant Dieu, mon Dieu. Tu m'as lavé maintenant par ta parole. Mais maintenant, cette journée, je veux la vivre pour faire ta volonté, non la mienne. La prière constante de Jésus était celle-ci, non ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Et ça, si nous faisons cette prière de tout notre cœur, mes amis, Dieu nous prendra au mot. Et quel que soit le feu par lequel nous passerons, sa présence nous accompagnera. Dieu nous bénira. Dieu nous gardera. Amen. Mes amis, lorsque nous passons à cette étape-là, c'est l'étape de la consécration totale. Nous devons dire, Seigneur, désormais, ce n'est plus ce que je veux qui compte, mais ce que tu veux. Jusqu'à présent, j'ai vécu pour faire ma volonté. Mais à partir de maintenant, je veux faire ta volonté seule. Prends ma vie, Seigneur, et qu'elle soit tout à toi. Amen. Tout à toi. Un jour, un jeune apprenti cherchait du travail. Il est arrivé vers un patron et le patron lui a dit, qu'est-ce que tu veux, mon garçon? Eh bien, je cherche du travail, patron. Je cherche du travail. Et qu'est-ce que tu peux faire? C'est un jeune homme, un gamin encore. Qu'est-ce que tu peux faire? Et le jeune homme a répondu, patron, je peux faire tout ce que vous me dites. Cette parole-là a plu au patron. Autrement dit, il a vu devant lui un jeune homme qui était prêt à faire n'importe quoi. Et il l'a pris. Et il a été embauché. Je suis prêt à faire tout ce que tu veux, patron. C'est ça l'obéissance. Seigneur, je suis prêt à faire toute ta volonté. Amen. Alors là, il a été embauché. Pourquoi est-ce que certains d'entre nous nous chômons? Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens chômeurs? Pourquoi est-ce que Dieu ne les emploie pas? Et ils rouspètent encore ces gens-là en plus. Les autres, ils ont un ministère, moi j'ai rien du tout. Les autres, tu les envoies jusqu'aux extrémités de la terre et moi je suis dans ma cave. Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi tu ne m'embauches pas? Le Seigneur te dit, j'embauche tout le monde, mais j'embauche ceux qui sont prêts à dire, je suis prêt à faire tout ce que tu veux, Seigneur. Tandis que nous, nous nous approchons en posant des conditions. Seigneur, d'accord, il faut d'abord que tu vois ma carte de visite d'abord, qui je suis. Je suis prêt à faire ceci et cela à condition que le Seigneur me le montre. À donc condition que Dieu me le montre. Si je n'ai pas de conviction personnelle, je ne fais rien du tout. Il faut que j'ai une révélation, il faut que j'ai une prophétie. Il y a des gens, vous savez, qui ne font jamais rien s'ils n'ont pas une révélation, une prophétie. Ils ne font rien. Et voilà pourquoi Dieu ne peut pas les utiliser. Dieu veut que tu sois prêt à faire n'importe quoi, tout prêt. La moindre chose qui est là, qu'on te propose, qui est là devant toi, tu dois être prêt à le faire. Et si tu le fais, Dieu t'embauchera, Dieu t'emploiera, Dieu t'utilisera, et Dieu fera de grandes choses avec toi. Amen. Patron, je peux faire tout ce que tu veux. Autrement dit, c'était un jeune homme qui était prêt à faire n'importe quoi. Es-tu prêt à faire n'importe quoi? Cesse de poser des conditions à Dieu. Combien pose des conditions? Je veux bien travailler, Seigneur, mais à condition que... D'abord, il faut que tu exauces toutes mes prières, tu remplisses mon porte-monnaie, tu arranges bien toutes les choses. Seigneur, d'abord, il faut que tout s'arrange bien. Après, quand j'aurai plus de problèmes, Seigneur, alors, tu verras, je vais te servir d'une manière extraordinaire. Et ils attendent qu'il n'y ait plus de problèmes. Ils attendent qu'un ange aussi vienne. Il y en a qui attendent un ange. Ah, mais moi, je veux... Moi, je sais pas, c'est un peu comme l'apôtre Paul. Moi, il faut que vraiment le Seigneur se révèle à moi surnaturellement. Et s'il n'y a pas de tout ça, je ne fais rien du tout. Et ils sont là sur la touche, en train de chercher du boulot. Et ils cherchent encore du boulot, et ils ont faim. Et ils ont faim. Et ils ont faim. Et ils pleurent, et ils crient. Parce qu'il n'y a pas cette prière. Le pain, c'est ceci, mon ami. Jésus est le pain de vie. Quand tu manges le pain, Jésus, tu dis à ton maître que ta volonté soit faite, et non la mienne. Seigneur, ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, n'importe quand. Amen. Voilà ce que Dieu attend de nous. Mes amis, si nous sommes prêts à faire cela, nous serons peut-être seuls, mais Dieu sera avec nous. Nous expérimenterons la présence de Dieu. Alléluia! Il est humain, c'est humain d'être avec la foule, mais c'est divin de marcher seul. Amen. C'est humain de marcher avec le courant, mais c'est divin de marcher contre le courant. Amen. Et tous les hommes de Dieu, tous ceux que Dieu a utilisés, ont dû, d'une manière ou d'une autre, marcher seul. Cela ne veut pas dire qu'il faut mépriser les autres, pas du tout. Mais si tu veux que Dieu t'utilise, il y aura une marche solitaire. Dieu te demandera quelque chose et il faudra obéir. Dieu te parlera par l'un et par l'autre. Sois sensible et fais ce que Dieu te demande. Seigneur, non ma volonté, mais ta volonté soit faite. Amen. Alléluia. Le pain, les pains de proposition. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'avais pris l'exemple ici, la volonté de Dieu, quand on fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est semblable un peu à ces cyclones, vous savez, dans l'océan Indien, en Chine, et par là-bas, au Japon, il y a des cyclones. Et paraît-il qu'au début, les navigateurs qui ne connaissaient pas un peu le processus des cyclones faisaient tous naufrage. Vous savez ce qu'ils faisaient quand ils voyaient un cyclone, hein, c'est ce qui tourne, ces tourbillons comme ça dans la mer. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils essayaient d'éviter le cyclone. Et en évitant le cyclone, les vagues les emportaient et ils faisaient naufrage. Jusqu'au jour où ils ont compris qu'au centre même du cyclone, il y a un repos, un calme parfait. Et quand un cyclone commençait à se manifester, ils allaient droit directement à l'intérieur du cyclone. Et là, à l'intérieur de ce cyclone, il y avait une paix parfaite. Il en est ainsi de la volonté de Dieu. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes dans un calme parfait. Alléluia. Mais lorsque nous fuyons loin de la volonté de Dieu, nous faisons naufrage. Ne fuis pas la volonté de Dieu. Elle est bonne, agréable et parfaite. Va droit, direct. Fais la volonté de Dieu. Et là, Dieu te donnera une paix qui surpasse toute intelligence. Mais tant que tu fuiras la volonté de Dieu, tu feras naufrage. Et voilà pourquoi beaucoup de vies font naufrage. Parce qu'ils fuient la volonté de Dieu. Tu feras naufrage. Fais la volonté de Dieu. Et tu auras une paix parfaite. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. On va un peu plus loin. Et après cela, qu'est-ce qu'il y avait? Après les pains de proposition, à côté il y avait le chandelier. Le chandelier. C'est l'image de quoi le chandelier là? Il y avait sept petites lumières sur ces branches, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué ces lumières? Ça vous fait ça vous rappelle quoi? Ces petites lumières, ça ne vous rappelle pas la Pentecôte? Et qu'est-ce qu'il est descendu sur les apôtres? Comme le Saint-Esprit est descendu comme des langues de... Et ces petites lumières, c'est comme des langues de feu. Et lorsque nous sommes devant le chandelier, alors là c'est l'image du Saint-Esprit. Et là, Dieu veut que nous manifestions la puissance de Dieu au travers du parler en langue. Dieu veut nous donner un renouvellement extraordinaire dans le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi celui qui parle en langue, celui qui loue en langue de tout son cœur, il expérimente vraiment la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Il en a été ainsi à la Pentecôte, il en est de même aujourd'hui. Ne néglige pas cela, c'est pourquoi l'apôtre disait « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Si vous ne parlez pas beaucoup en langue, si vous ne louez pas beaucoup le Seigneur en langue, qu'est-ce qui va se passer? Vos lampes seront éteintes. Vous savez que dans le lieu saint, il n'y avait que ce chandelier qui éclairait ce lieu. Autrement, tout était ténébreux. C'était les ténèbres dedans. Il n'y avait que le chandelier qui éclairait. Alors, si nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit, alors tout est bien éclairé. Mais si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, il y a peut-être une lampe ou deux qui sont éclairées. Et alors, c'est un peu les ténèbres. Nous vivons une vie qui ne glorifie pas pleinement le Seigneur. Nous ne sommes pas dans la lumière. Mais mes amis, pendant ce week-end, Dieu vous demande une chose. Arrêtez-vous devant le chandelier et louons le Seigneur. Soyons remplis du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous le dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et plus nous parlons en langue, plus nous chantons en langue, plus nous sommes renouvelés dans le Saint-Esprit. Amen. Tu verras la présence de Dieu. Tu verras, tu expérimenteras la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Et ensuite, il y avait, le sacrificateur devait s'arrêter devant l'autel des reins, l'autel des parfums. Et le parfum ici est l'image de la louange et de l'adoration, n'est-ce pas vrai? Alors une fois que nous arrivons devant ce parfum, l'autel des parfums, nos cœurs ont été préparés pour louer le Seigneur vraiment de tout notre cœur. Et alors, c'est comme un parfum qui monte vers Dieu, un parfum agréable au Seigneur. Amen. C'est la louange, un peuple qui loue le Seigneur, qui loue le Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, et vous devez apprendre à le faire en tout temps. Amen. En tout temps, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, nous devons apprendre à louer le Seigneur. J'ai pris l'exemple ici d'un évangéliste américain qui était très dynamique. Il était autrefois un ivrogne, Billy Bray. Il est mort maintenant, mais il paraît qu'il avait un enthousiasme extraordinaire. Mais il avait vécu une vie très misérable. Et après sa conversion, il a eu beaucoup de difficultés. Alors qu'il se trouvait à un endroit et on lui a donné à manger, il n'y avait pas beaucoup à manger, il n'avait que quelques pommes de terre à manger. Et là, le diable est venu lui dire, « Comment peux-tu louer le Seigneur pour ces quelques petites pommes de terre qui sont là ?» Parce que c'était un homme qui avait pris l'habitude de louer le Seigneur en tout temps. Billy Bray, c'était ça. Un dynamisme extraordinaire. Quelqu'un qui loue, c'est quelqu'un qui est fort. Quelqu'un qui loue, c'est quelqu'un qui a la présence de Dieu. Amen. Pas de louange, pas de présence de Dieu, mes amis. C'est impossible. Loue le Seigneur et la présence de Dieu sera avec toi. Alors le diable a voulu l'arrêter. Il a dit, comment peux-tu louer Dieu pour ces quelques pommes de terre? Et vous savez ce qu'il a répondu? Écoute, Satan, quand j'étais à ton service, tu ne m'as même pas servi des pommes de terre. Même pas des petites pommes de terre tu m'as servi. Puisqu'il était ivrogne, il était vraiment une vie lamentable. Il lui a dit, allez, va-t'en de moi. Toi, tu ne m'as même pas donné quelques petites pommes de terre. Dieu m'en donne quelques petites, gloire à Dieu. Un autre jour, j'aurai un festin peut-être. Mais Dieu est avec moi. Alléluia. Et ainsi, il gardait un esprit de louange, quels que soient les temps et les circonstances. Mes amis, apprenons à le louer. Amen. Es-tu dans un passage difficile? As-tu des problèmes actuellement? Loue le Seigneur. Loue-le pour sa bonté, son amour, sa fidélité. Et tu verras ce qu'il se manifestera à ton égard. Amen. Alléluia. Tu es devant l'autel des parfums. Loue ton Dieu. Ce n'est pas l'autel du murmure, c'est l'autel des parfums, l'autel de la louange et de l'action de grâce. Fais-le pendant ce week-end, abandonne tes murmures et adore-le de tout ton cœur. La présence de Dieu viendra vers toi, tu seras libéré de tes liens. Alléluia. Quatrième étape, et maintenant, après l'autel des parfums, il pouvait entrer dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est le lieu de l'adoration. C'est le lieu où la présence de Dieu se trouvait. Et là, alors le sacrificateur devait présenter le sang et expérimenter une présence de Dieu d'une manière extraordinaire. Et nous aussi, mes amis, lorsque nous arrivons à ce stade-là, nous passons de la louange à l'adoration. Dans la louange, nous rendons gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est. Mais dans l'adoration, nous nous courbons à ses pieds. Dans un abandon total de notre vie. En lui disant, Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie. Désormais, tu es tout pour moi. Amen. Tu es tout pour moi. Et dans le lieu très saint, il y a trois bénédictions. Il y a l'adoration. Ensuite, il y a la communion. C'est là que la communion est la plus intense et la plus réelle avec Dieu. Et il y a une troisième bénédiction, la révélation. Lorsqu'on est dans le lieu très saint, Dieu se révèle à nous. Amen. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Dieu t'éclaire. Dieu te parle. Dieu te montre ce que tu dois faire. Alléluia. Mais il n'y a pas de révélation avant de se courber dans l'adoration en disant, Seigneur, non plus ma volonté mais la tienne. Ce que tu veux et non ce que je veux. Êtes-vous prêts? Voilà les quatre étapes à franchir. Faisons-le, mes amis, dans notre culte personnel. Et nous expérimenterons une présence de Dieu renouvelée, une plus grande présence. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Courbons-nous dans la prière quelques instants. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous réalisons qu'elle est là comme une puissance pour nous purifier, pour nous laver de toute souillure, de tout doute, de toute incrédulité, de toute résistance. Merci pour la révélation de tes paroles qui nous éclairent. Seigneur, donne-nous d'être obéissants et de pouvoir dire ta volonté soit faite et non la mienne, sincèrement et définitivement. Ô Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Ô, garde-nous ainsi près de toi, réalisant toujours plus la puissance de ton sang, la puissance de ta parole, réalisant que nous devons nous donner à toi, être remplis du Saint-Esprit, te louer de tout notre cœur et nous courber devant ta face dans une communion vivante, intense avec toi. Qu'il en soit ainsi pendant tout ce week-end, Seigneur, que vraiment nous entrions dans le sanctuaire. Par le sang de Jésus, tu nous as montré le chemin. Donne-nous de le faire, Seigneur, non seulement ici, mais tous les jours de notre vie, au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut chanter, si vous voulez, pour terminer. Entrons dans le sanctuaire en nous laissant purifier. Le numéro 3. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia.